On a eu le point de vue du régulateur, du politique. Maintenant, j'ai demandé aux universitaires de nous dire ce qu'ils pensent de tout ça. Et d'abord, Laurent Cialom, si vous arrivez vraiment à tenir en un peu moins de 20 minutes, un quart d'heure, ça nous laisse un petit peu de temps de questions.
Ok. Est-ce que la finance est sous contrôle? Alors, posée de cette manière, il est clair pour moi que la réponse est non. Disons que... Au regard de ce qui se profile, elle va probablement être davantage sous contrôle, mais tant que nos systèmes financiers demeureront des systèmes libéralisés, globalisés, etc., elle ne sera jamais véritablement sous contrôle. La seule chose qu'on pourra faire, c'est essayer de créer un cadre qui réduit la probabilité d'occurrence des crises et qui réduit leur ampleur. Alors je vais essayer dans un premier temps, très rapidement, d'essayer de comprendre pourquoi je viens de dire ça. Eh bien, les économies capitalistes qui combinent des financements de marché et des financements par crédit bancaire ont tendance à générer de manière endogène des phases de fragilisation financière croissante et parfois ces phases débouchent sur une crise majeure comme ça a été le cas très récemment. Les travaux de l'historien Kindleberger montrent très bien cette récurrence des crises financières et montrent très bien surtout les permanences, disons, les dénominateurs communs à ces crises. Dans nos systèmes financiers contemporains, cette instabilité financière, elle trouve sa source principale dans les interdépendances entre marché du crédit et marché des prix d'actifs. Il y a un cercle vicieux qui se crée par moment et qui s'emballe entre ces deux marchés et il n'y a aucune force endogène de rappel. Et c'est pour ça qu'il est impératif de réguler la finance. Alors, quels sont les facteurs communs à la plupart des crises financières contemporaines? Donc, je pose ce diagnostic très vite pour savoir sur quoi on doit agir et réguler. Alors, tout d'abord, on a un accroissement généralisé du levier. On a une sous-évaluation systématique des risques, des prises de risques excessives. Donc la sous-évaluation, on la voit dans des spreads très écrasés dans les périodes pré-crise. Et on a une réduction de la liquidité des agents. C'est-à-dire qu'on est dans une phase où tout semble aller bien avant la crise. On a des recours à des financements externes qui dopent les profits. Cette profitabilité accrue conforte l'accroissement de l'endettement et conforte les agents dans l'idée que les prix d'actifs vont continuer à augmenter. Et donc, on a des fragilités financières qui se créent, mais qui sont occultées par ce climat général optimiste, disons. Ce climat de confiance, en plus de ça, a comme autre effet pervers de conduire les agents à minimiser le risque, enfin la difficulté qu'ils pourraient avoir à se refinancer et donc à favoriser un financement à court terme au détriment d'un financement à long terme. Ben, quand on a tout ça, ça y est, la mayonnaise prend et là, l'économie est vraiment très vulnérable à un choc, comme par exemple un choc de taux d'intérêt. Bon. Alors, tous ces ingrédients, on les a dans la plupart des crises financières récentes, on les a dans beaucoup de crises financières passées, et on les a dans la crise qu'on vient de traverser, qui n'est certainement pas terminée, et qui a commencé en 2007. La spécificité de cette crise, qui en a fait sa gravité, c'est que c'est une crise de la finance structurée. C'est-à-dire que... bien sûr, on a la dégradation non perçue de la qualité des crédits hein, que l'on a dans les autres crises, hein. Mais la crise ne fragilise pas seulement les banques qui ont octroyé ces crédits qui apparaissent rétrospectivement de mauvaise qualité. Ces crédits, on les a mis en poule, on les a transformés en actifs financiers, ce faisant, ils ont été disséminés dans tout le système. Donc on a créé, en plus de ce cercle vicieux entre prix d'actifs et dérive du crédit, un canal de contagion direct par le canal des produits structurés qui mettent en poule des crédits de mauvaise qualité. Alors une fois qu'on a posé ce diagnostic, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on a fait? Alors la première chose qui vient à l'esprit, c'est de se dire, eh bien après tout, les banques centrales, elles pourraient essayer d'intervenir préventivement pour essayer de, non de juguler les crises une fois qu'elles ont atteint des niveaux considérables, mais d'éviter qu'elles se forment. Et donc, plus précisément, elles pourraient intervenir sur les dérives du crédit qui alimentent ces bulles. Elles sont très réticentes à le faire. Elles sont très réticentes à le faire et elles ont toute une batterie de raisons pour ça, dont certaines sont parfaitement recevables. La première, c'est qu'elles disent « Oui, mais nous, on n'est pas plus armés que les marchés pour savoir détecter quand on a une bulle ». La deuxième, c'est la fameuse règle de Tinbergen, il faut autant d'instruments que d'objectifs de politique publique. Ce faisant, on a les temps d'intérêt, on peut pas, on a un risque de mauvais dosage, on peut pas suivre deux objectifs, la stabilité des prix des biens et services et la stabilité financière, avec un instrument. Il y a un risque de perte de transparence des banques centrales, il y a la difficulté à contrôler les prix d'actifs, et il y a surtout le risque d'aléa morale qu'il y a si les banques centrales annoncent qu'elles vont stabiliser les prix d'actifs. Alors certains de ces arguments sont vraiment recevables, comme par exemple, effectivement, je pense qu'il est très difficile de déterminer, alors il y a des raisons théoriques très profondes à ça, quand on bascule sur une bulle sur les marchés boursiers. En revanche, à mon sens, sur le marché immobilier, on a quand même des forces de rappel et on pourrait avoir des indicateurs qui permettent d'éviter les dérives et les bulles sur l'immobilier. En particulier, on pourrait tout à fait avoir des règles d'intervention qui considèrent que le prix de l'immobilier résidentiel ne doit pas s'éloigner considérablement de l'évolution parallèle des loyers, puisque les loyers, la force de rappel, c'est quand même les revenus qui sont générés dans l'économie. L'évolution du ratio prix de l'immobilier sur loyer, s'il s'accroît trop, bien ça pourrait être un indicateur fiable d'une éventuelle bulle. Et on sait bien que le prix de l'immobilier est contrôlable par la politique monétaire, puisqu'il y a toujours une distribution très abondante de crédits aux ménages qui précède et qui accompagne les bulles sur l'immobilier. Cette remarque est particulièrement importante parce que toutes les grandes crises financières graves qu'on a traversées se sont accompagnées et ont été amplifiées par des crises des éclatements de bulles immobilières. Je cite simplement la crise des savings and loans, la crise japonaise qui a commencé par un éclatement de la bulle immobilière et la crise qu'on vient de traverser qui a commencé avec la crise des subprimes qui sont des crédits hypothécaires à risque. La règle de Tinbergen, quant à elle, bien, il suffit de créer d'autres instruments. Il est clair que pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas, par exemple, il y a des tas de propositions dans ce sens, réactiver des réserves obligatoires marginales discrétionnaires sur des catégories de crédits qui alimentent des dérives de prix d'actifs. Donc, bon, et il y a d'autres propositions. Goudart en a émis un certain nombre et il n'est pas le seul. Bon. Alors pour l'instant, on ne semble pas s'orienter sur cette piste qui me semble pourtant devoir être activée parmi l'arsenal des dispositions qu'on pourrait prendre pour essayer de mettre un peu plus la finance sous contrôle. Alors parmi les autres réponses que l'on peut apporter pour renforcer la stabilité financière, il y a évidemment toutes celles qui visent à atténuer les excès de la finance, les pathologies de la finance qui apparaissent dans les périodes pré-crise. Et puis celle qui vise à renforcer la capacité de résilience, donc d'absorption des chocs, des intermédiaires financiers. Dans ce domaine, à mon sens, le package de Bâle III va dans le bon sens. Alors je ne serai pas du tout exhaustive dans ce domaine, mais les points forts me semblent être le renforcement général de la capitalisation des banques, le renforcement notamment des exigences pour faire face aux risques liés au trading book, notamment les expositions aux véhicules hors bilan, aux titrisations complexes. Mais à mon sens, même si le discours du comité de Bâle, c'est on a triplé les exigences dans ce domaine, je ne pense que ce n'est pas assez. Le renforcement, ça me semble un point très important, le renforcement très net de la qualité du capital, avec le fait que les titres de dette hybride qui avaient été imposés comme capital par les banques au terme d'un lobbying très intense, qui maintenant commence à être relativement bien documentés, eh bien progressivement vont être évincés et on revient à une définition du capital, core capital, c'est-à-dire des actions ordinaires qui ont une capacité d'absorption des pertes quand même beaucoup plus importante. Alors, un autre élément très important du package de Bâle III, c'est le ratio de levier. Donc on peut penser qu'il ne mord pas assez, mais ça me semble important parce que c'est en rupture avec l'autorégulation qui prévaut depuis 1996. Donc un ratio de levier simple, c'est de dire simplement, bien, on ne prend plus un actif pondéré par les risques. Il y a un certain rapport entre le capital, les actifs et le hors-bilan, et on ne peut pas aller au-delà. Donc il y a ça dans le package de Bâle III. Et ça me semble quelque chose d'important parce que ça va également dans le sens d'une politique macro-prudentielle parce que ça mord dans les périodes d'euphorie. Ça oblige les banques soit à lever du capital, soit à réduire la croissance de leur taille de bilan. Dans les deux cas, ça réduit leur profitabilité. Eh bien, c'est normal, c'est une taxe pollueur-payeur vu ce que ça coûte à la collectivité quand une banque fait faillite ou est renflouée. Ce que je vous disais, c'est que je pense que c'est important parce que ça rompt la logique que moi je nomme, et je crois mon voisin aussi, une logique d'autorégulation, à savoir qu'à partir de 1996, on a autorisé les banques à utiliser leur modèle de contrôle interne des risques pour calculer leur capital réglementaire. D'abord pour le risque de marché, pour couvrir le risque de marché, avec Bâle 2, pour couvrir le risque de crédit. Pour moi, c'est un péché originel. On ne peut pas avoir une convergence entre le capital économique et le capital réglementaire. C'est nier ce qu'est même le capital réglementaire qui doit inclure les externalités. Et ça, ça ne peut pas être pricé par le marché. Bon, je ferme cette parenthèse. Mais surtout, cette philosophie de régulation prudentielle a ouvert grand la porte à un phénomène massif de capture du régulateur par l'industrie régulée et a fait que les banques sont rentrées très sous-capitalisées dans la crise. Ce package de Bâle 3 comprend également un autre point qui, je pense, c'est peut-être le plus important avec le ratio de levier, c'est qu'on va imposer des ratios de liquidité aux banques. Un ratio de liquidité à court terme et un ratio de liquidité à long terme, plus structurel, disons. Ça va dans le bon sens parce que ça agit sur une des dérives pathologiques de la période pré-crise, à savoir le fait que les agents réduisent leur liquidité. Alors, cette exposition au risque de liquidité a été très, très accrue dans la crise qu'on vient de connaître, hein, par ce nouveau modèle d'intermédiation bancaire qu'on a appelé le modèle originate to distribute, c'est-à-dire le fait que les banques ne conservent plus les crédits dans leur bilan, mais elles les titrisent. Alors, pourquoi ? Eh bien, parce que déjà, ça s'attaque, ce modèle, au cœur même de métier des banques. C'est-à-dire ça réduit fortement les incitations des banques à correctement faire la sélection de leurs débiteurs et le monitoring qui suit. Hein. Par ailleurs, ça accroît la dépendance des banques à la liquidité de gros, ça alimente le marché des produits structurés et le fameux système bancaire fantôme, et ça démultiplie le potentiel d'offres de crédit des banques à capital donné, et donc les dérives du crédit qui, justement, sont à la source des crises. Donc vraiment, ça, je pense que c'est un modèle sur lequel il faut travailler, et je pense que les régulations qu'on met en place doivent laisser la place, évidemment, à la titrisation, mais en tout cas pas à toute titrisation. Le cas de Northern Rock est un cas d'école de toutes les failles et les dérives de ce type de modèle. Alors, pourquoi on ne s'est pas intéressé à la réglementation de la liquidité avant ? Eh bien, enfin, depuis les années 80. Eh bien, parce qu'on considérait qu'on pouvait séparer complètement problème de liquidité et de solvabilité. C'est-à-dire qu'on pensait que les problèmes de solvabilité ne pouvaient venir que de la dégradation de la qualité des actifs des banques. Ce qu'a montré la crise de 2007-2008, c'est que ça, c'est faux. Enfin, en tout cas, dans nos systèmes financiers, c'est faux. Et la frontière entre illiquidité et insolvabilité est devenue excessivement poreuse. Dès lors qu'on a des doutes sur la solvabilité de nos contreparties sur le marché, eh bien on rationne leur financement et donc on crée les problèmes de solvabilité qu'on craint. Et donc il n'y a pas que les ruées qui sont des prophéties autoréalisatrices, les ruées sur le marché, ça existe et on en a eu la preuve. Donc ça veut dire que quand on veut préserver la solvabilité des banques, eh bien on doit aussi s'intéresser à la liquidité de celles-ci. Et donc on ne peut plus considérer que les problèmes de solvabilité sont cantonnés à l'actif. Et donc, Bâle 3, effectivement, propose d'imposer aux banques de détenir des actifs suffisamment liquides pour leur permettre d'être à peu près autonomes en cas de stress fort sur la liquidité pendant un mois. Bon, oui, c'est ça. Et puis un ratio plus structurel qui devrait agir sur les modèles de financement des banques de manière à limiter leur vulnérabilité à ce qu'on appelle la funding liquidity, c'est-à-dire au tarissement de la liquidité de financement. Le problème de la régulation de la liquidité, c'est pour ça que c'est compliqué, hein, c'est que la liquidité, ça dépend des deux côtés du bilan. Hein. Bon. Alors, comment... Ah, bah alors, j'ai pas eu le... J'ai... Oh là là, c'était le plus important maintenant. Bon, alors, bah oui, j'aurais dû commencer par là. Ouais. Non, mais bon, il y a une prime à commencer. Hein. Bon. Pour une femme, non, il n'y a pas de prime. Non, la parité, bon d'accord, ok. Je la défends, donc je ne vais pas m'y opposer. Non, mais ouais, c'est ça, c'est le problème de la parité. Bon, d'accord, ok. Bon, alors, malgré toutes ces avancées, la finance n'est pas sous contrôle. Et elle ne sera pas sous contrôle tant que les États auront les mains liées dans la gestion des crises bancaires. Et notamment qu'elles seront obligées de renflouer les institutions systémiques. Alors ça, on l'a bien vu hein, au cours de la crise récente. Il est donc impératif de trouver les moyens pour que les États n'aient pas les mains liées dans la gestion des crises bancaires. Le renflouement ne doit pas être la seule option qui s'impose à elles. Toutes les institutions doivent pouvoir être démantelées, mais leur fonction, systémiques doivent être préservées. Pour répondre à cet objectif, une solution serait d'adopter deux dispositifs complémentaires, à savoir l'imposition de living wills, c'est-à-dire des testaments bancaires, et en même temps de soumettre les institutions financières systémiques à un nouveau régime gouvernant leur insolvabilité, qui ne soit pas un régime judiciaire, mais un régime administratif. Il faudrait que ce soit le superviseur qui ait la main sur ce régime, et qu'il ait les moyens légaux d'intervenir précocement et de manière coercitive sur les institutions financières en difficulté, de manière à pouvoir engager une procédure de liquidation, résolution ou réorganisation, tout en préservant les fonctions vitales de ces intermédiaires financiers, que sont la gestion des dépôts et l'octroi de crédit à des agents qui n'ont pas d'autres sources de financement que ça. Donc ces instruments légaux, ça existe, alors j'ai pas du tout le temps de vous en parler, c'était intéressant pourtant, mais ça existe, ces instruments doivent avoir en commun d'imposer des pertes aux actionnaires, de permettre le démantèlement de toute institution financière, et de, tout en préservant la stabilité financière, mais également les intérêts des contribuables, et pas uniquement les intérêts des intermédiaires financiers privés. En clair, donc, toutes les institutions doivent pouvoir faire faillite. Aux États-Unis, la récente loi qui a été adoptée, Dodd-Frank, prévoit ce type de dispositif. Et pour l'Europe, à mon avis, c'est vraiment un chantier qu'on ne peut pas laisser, et même s'il est excessivement complexe en raison des problèmes légaux, qu'on ne peut pas laisser passer, parce que je pense que c'est la seule vraie manière de réguler la finance. Alors, pour ce qui est des testaments bancaires, il s'agirait simplement d'imposer aux banques, aux institutions systémiques en fait, le fait de donner le mode d'emploi de leur démantèlement. Elles devraient justifier de leur structuration de groupe, et quand il s'avère que cette structuration de groupe n'est justifiable que par des motivations pas avouables, comme l'arbitrage réglementaire ou l'arbitrage fiscal, eh bien le régulateur devrait avoir le pouvoir d'imposer une simplification de la structuration des groupes. Ça pourrait être également un moyen de régler la question du partage des pertes en Europe pour la défaillance des institutions transfrontières. Il faudrait définir ex ante les règles de partage des pertes pour les grands groupes internationaux. Alors, les opposants à ces dispositions disent « Oh là là, mais si ça existe, ça va considérablement augmenter l'aléa moral ». C'est vrai si on n'a pas un régime de défaillance de ces institutions qui permette de les démanteler effectivement. Si on a ce cadre légal, ça devient nettement moins vrai. Je vous remercie.
Merci. Je crois que depuis le début, on voit que l'une des difficultés de pouvoir organiser un débat démocratique sur la finance, non pas que les intervenants soient trop longs, c'est que le sujet est très technique et qu'il faudrait prendre le temps de bien l'expliquer. Mais pour ça, bien sûr, je vous renvoie pour les explications techniques à Alternatives économiques, votre magazine favori. Et je tiens à remercier pour la suite de cette table ronde Jean-Paul Pellin, qui vient d'accepter, sans le savoir, de parler un petit peu moins longtemps pour vous laisser de la place.
Oui, je me suis déjà défoulé, à vrai dire, hier dans la table ronde sur les banques centrales. Donc, voilà, je serai effectivement plus court. D'autant que beaucoup de choses ont été dites. Alors, d'abord, peut-être en introduction, juste une remarque sur la question que se posait Pierre-François Weber dans son exposé, en introduction de son exposé. Quelle est la finance qu'il faut contrôler ? Enfin, la finance, c'est effectivement quelque chose de très large. Quelle est la finance qu'il faut contrôler ? Alors, pour moi, la réponse est relativement simple. La finance qu'il faut contrôler, c'est celle qui a une portée systémique. Et celle qui a une portée systémique, en gros, c'est la banque, le système bancaire de base, c'est-à-dire la banque qui gère des moyens de paiement et qui fait des crédits. Quand on regarde, d'ailleurs, dans l'histoire, on s'aperçoit que des crises financières, il y en a eu effectivement beaucoup, les crises qui concernent purement les marchés, certaines ont été violentes, et il n'y a pas besoin de remonter au déluge. Prenons par exemple le krach de 87, prenons le krach des pays asiatiques de 97. Au fond, ces krachs que nous avions commentés à l'époque en disant « c'est épouvantable, il y a je ne sais combien de milliards de dollars qui sont partis en fumée », sur le PIB, sur l'activité, sur l'emploi, etc., ils ont laissé extrêmement peu de, peu de traces. Par contre, la crise que nous vivons, comme la crise de 29, est une crise grave parce que le cœur du système, c'est-à-dire ce système bancaire de base, celui qui gère les systèmes de paiement et qui fait du crédit, a été touché. Et c'est ça qui est important. Et pour cette raison, il est effectivement important de sanctuariser d'une certaine façon ce cœur du système. Alors comment poser la question, et ma réponse est la meilleure des solutions, ça serait revenir effectivement à une séparation de la banque utile et de la banque de financement et d'investissement. On peut penser effectivement à d'autres solutions. Il reste que contrôler la finance, pour moi, c'est avant tout ça. C'est avant tout mettre sous contrôle le système bancaire utile. Alors maintenant, trois points. Au fond, quand on pose la question, la finance est-elle sous contrôle ? Ça revient à se poser la question, est-ce que les choses ont changé depuis le début de la crise ? Puisqu'on sait bien que la finance n'était pas sous contrôle en 2007, puisqu'il y a eu cette crise. Donc, est-ce que les choses ont changé ? La réponse est, et je pense que tout le monde a dit un peu la même chose, la réponse est évidemment non. Prenons d'abord le cas du microprudentiel. Donc, je rappelle pour les jeunes de l'auditoire que le microprudentiel, ça consiste à s'assurer de la stabilité des institutions financières prises individuellement. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a effectivement joué sur les fonds propres. En effet, on a amélioré la qualité des fonds propres. À ce propos, on s'est rendu compte que finalement, les ratios qu'on nous servait, ils n'étaient pas si flambants qu'on pouvait le penser, puisqu'on était sur des 8%, 8% divisé en 2. Et puis finalement, on s'aperçoit même dans le tier 1, c'est-à-dire le cœur, la moitié n'était pas des vrais fonds propres. Donc on part de 2%. Bon. Pierre-François Weber disait, on les a multipliés par 3. Mais multiplier par 3, pas grand-chose, c'est encore pas formidable, quoi. Donc, le ratio lui-même, je suis de ceux, effectivement, qui pensent qu'on n'en a pas fait assez de ce point de vue. Mais en plus, regardons un peu le calendrier. Alors, le calendrier, on va commencer à relever à partir de 2013 pour trouver le régime de croisière en 2015. Ça veut dire que par rapport à ton introduction, Christian, en disant, voilà, en 29, il y a eu une crise, et donc en 32, on a commencé à faire des choses. On prend du retard, là, par rapport à 29. Ensuite, il y a, en effet, la question importante des ratios de liquidité. Cette crise est une crise de liquidité. C'était pas une crise d'insolvabilité. C'est devenu une crise d'insolvabilité parce qu'il y a eu un problème de liquidité. Donc, je crois, en effet, très important la mise en place de ces ratios de liquidité dont vient de parler Laurence. Le terme de liquidité n'est pas employé dans le même sens que Pascal Calfin, qui, lui, parlait de liquidité de marché. Alors que là, on parle de la liquidité des institutions financières, c'est-à-dire leur capacité à faire face dans l'immédiat à des engagements, et ça, c'est hautement souhaitable. Au passage, il y a donc une différence entre la liquidité de marché d'un côté et la liquidité du système bancaire de l'autre, ce qui pose effectivement un vrai problème et qui montre que lorsque on mélange les deux types de banques, les deux types de systèmes bancaires, marché et la banque traditionnelle, on fait des choses sans doute contre nature. Donc ce ratio de liquidité à un mois, lui, on va en fait l'introduire en 2015. Donc aujourd'hui, ça veut dire qu'aujourd'hui, rien n'est sous contrôle. Hein. Cette crise était une crise de liquidité et on nous renvoie en 2015 après une période d'observation. Quant au ratio le plus intéressant, qui est au fond un ratio de contrôle de la liquidité sur le long terme, lui, il sera introduit en 2018. Donc crise 2007-2008, mettons, introduction de ce ratio capital en 2018. Juste un petit point là-dessus, pour réemployer le terme de lobbying qui a été utilisé tout à l'heure. En effet, les banques se sont battues, bec et ongles, contre cette augmentation des fonds propres et contre cette introduction des ratios de liquidité. Avec un argument formidable, parfaitement démagogique, qui consiste à dire surtout, ne nous posez pas de problème côté fonds propres, côté ratio de liquidité, parce que si vous faites ça, vous allez augmenter le coût du crédit et ça sera mauvais pour tout le monde, vous autres emprunteurs et pour l'activité économique. Alors je voudrais rappeler qu'il existe, la théorie économique fonctionne beaucoup avec ce fameux théorème de Modigliani et Miller qu'on a appris tous plus ou moins, j'allais dire dans notre jeunesse, sauf que la mienne, bon, on n'enseignait pas encore Modigliani et Miller. Ce théorème nous dit que le coût du capital d'une entreprise est indépendant de la structure de financement de cette entreprise. Ceci, si je l'applique à la banque, me conduit à dire que ça n'est pas parce qu'on va augmenter les fonds propres de la banque que ceci devrait augmenter le coût du capital de la banque. Alors, le théorème en question, il a été beaucoup discuté, il y a effectivement des réserves à apporter. Néanmoins, le groupe de la BRI qui s'est penché sur cette question a repris l'argument, et c'est ça d'ailleurs qui fait que entre le chiffrage du lobby bancaire et le chiffrage de la BRI, c'est en gros le jour et la nuit, il y a une divergence extrêmement importante. Deuxième point, le risque systémique, c'est-à-dire ce qu'on a appelé le macro-prudentiel. En effet, ce que nous avons découvert durant cette crise, c'est qu'il y avait du risque systémique. Ce risque systémique, ça consiste à dire que le risque du tout, le risque de l'ensemble, le risque du système est différent du risque de la somme des parties, c'est-à-dire de la somme des institutions financières. Ça n'est pas parce que chaque institution financière est stable, garantie, sûre, solvable, que pour autant l'ensemble du système est stable. Et en effet, là aussi, j'ai pas le temps, et puis je me suis engagé donc à essayer de respecter, donc je ne développe pas, mais c'est effectivement quelque chose de très important. Qu'est-ce qui a été fait ? Alors, là aussi, je vais peut-être un peu diverger par rapport à ce qu'a dit Pierre-François Weber. Lui dit il faudrait passer à autre chose. Mais enfin, bon, on passe à autre chose quand on a réglé le problème. Or là, précisément, à peu près rien n'a été fait, en tout cas en Europe, de ce point de vue. Aux États-Unis, il y a au moins deux choses qui ont été faites. Il y a la règle Volcker. Volcker était partisan, comme vous le savez, enfin un certain nombre d'entre vous le savent, d'une séparation, justement, entre la banque que j'appelais utile, la banque de dépôt, la banque commerciale, et puis d'un autre côté, la banque de financement et d'investissement. Au bout du compte, la loi a débouché sur quelque chose de beaucoup moins ambitieux, qui consiste seulement à interdire aux banques, en tout cas à limiter très fortement, le propre trading, c'est-à-dire le trading pour compte propre, la spéculation pour compte propre, de la part des banques. Elles ne peuvent faire des opérations qu'à montant de 3% de leurs fonds propres. Rien de tel en Europe, rien de tel en France, parce qu'il est dit que le système de la banque universelle, c'est le meilleur. Effectivement, quand on compare la rentabilité de la banque commerciale, la banque de base, et de la banque de financement et d'investissement, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et on comprend en effet que les banques, et notamment les banques françaises, soient très désireuses de rester dans ce système de banque universelle, donc de mélange entre la banque de marché et la banque qui fait du crédit. D'autre part, les Américains se sont posés très sérieusement, Laurence vient de faire allusion, au démantèlement des banques, en fait au problème du « too big to fail », c'est-à-dire ces banques qui sont tellement grosses ou tellement interconnectées qu'on ne peut pas se permettre de les sanctionner par la faillite. Et donc, les Américains considèrent que plus jamais ça, qu'en effet, il faut faire en sorte que les banques qui font des bêtises doivent en payer le prix, c'est-à-dire toutes les parties prenantes et notamment les apporteurs de capitaux. De notre côté, nous n'avons rien fait et je rappelais hier que dans l'enceinte de l'APB, on m'avait dit tout à trac que le problème du too big to fail n'existait pas, ne se posait pas. Alors il se pose ailleurs. C'est bizarre qu'il ne se pose pas en France d'ailleurs, parce que le système bancaire français est un des plus concentrés du monde. Par ailleurs, il y a la question du procyclique, mais je laisse tomber. J'en viens à mon troisième point, la question des informations. Pascal Calfin a parlé de l'opacité des produits financiers. En effet, c'est un problème. J'aurais pu dire précédemment, pour moi la régulation qui est importante, c'est la régulation du système bancaire utile. C'est vrai qu'il y a d'autres régulations, en particulier la régulation qui touche aux intérêts du consommateur. Ou des entreprises. Cette régulation des marchés, elle est très utile, mais c'est un autre versant de la régulation. Moi, je voudrais juste dire deux mots, parce que c'est un point auquel je tiens beaucoup, sur lequel j'ai un peu essayé de faire avancer les choses, qui est l'information sur le système bancaire. C'est très difficile, et c'est paradoxal d'ailleurs, c'est très difficile d'avoir des informations fiables, claire, transparente sur le système bancaire. Les banques disent on publie beaucoup de choses. Alors, on publie beaucoup de choses, mais ce sont des choses qui sont extrêmement difficiles à lire, ne serait-ce que parce que la comparaison d'une banque à l'autre est très difficile. Si vous regardez d'ailleurs une littérature qui n'est pas disponible dans le public, la littérature des analystes financiers qui étudient les banques, chaque analyste financier a sa décomposition du PNB bancaire, sa décomposition de la banque, qui lui est propre. Donc c'est très difficilement comparable. Et les banques elles-mêmes, quand elles rendent compte, ont des distinctions dans leurs activités qui sont également très différentes. Or, c'est très important de contrôler les banques. D'abord parce que je voudrais rappeler qu'il y a un pilier 3 à Bâle, et d'ailleurs certains considéraient que la seule véritable innovation, les libéraux d'ailleurs, de Bâle 2, c'était ce pilier 3 qui dit transparence. Transparence parce que, pourquoi ? Parce que si le système est transparent, ça permet de mieux le réguler évidemment, et surtout ça va permettre de faire jouer la discipline de marché. Aujourd'hui, je ne vois pas comment la discipline de marché pourrait sérieusement fonctionner, sauf vraiment information grave. Donc, d'une part, et puis si vous voulez responsabiliser, comme c'est extrêmement souhaitable, les apporteurs de capitaux de la banque, c'est-à-dire les actionnaires et les prêteurs qui s'en sont drôlement bien tirés durant cette crise, il faut effectivement que cette transparence existe. Et là, on aurait beaucoup de progrès à faire. L'autorité de la statistique publique vient de donner un avis sur cette question, demandant à ce que des progrès soient faits en la matière, en particulier sur la comptabilité bancaire par activité. J'espère que cet avis sera suivi des faits, mais je n'ai aucune raison d'en douter. Le régulateur, de son côté, ne fait pas beaucoup d'efforts. Quand je vais dans le rapport de la commission bancaire, honnêtement, j'ai beaucoup de mal à connaître des choses sur le système bancaire pris globalement, additionner par exemple les risques sur l'activité bancaire de base et les risques de marché. Pour moi, j'ai un peu essayé, peut-être sans trop insister. Pour moi, c'est difficile. Dans un rapport, on devrait pouvoir le faire. Sur la liquidité, on n'a pratiquement rien. Sur la liquidité, oui, on n'a pratiquement rien. Et donc, tout ceci me conduit à dire que le régulateur, il ne joue pas forcément bien le jeu de cette information. Alors, ce n'est peut-être pas lui, d'ailleurs, qui est le mieux placé pour le faire. En tout cas, moi, je suis à la recherche de l'institution qui permettrait de capter ces informations au niveau global peut-être aussi au niveau individuel, ce qui est plus compliqué, et de l'instance qui nous permettrait d'en savoir plus sur l'interconnexion entre les banques. J'ai entre les mains un papier de la Banque d'Angleterre, par exemple, qui a essayé de construire le réseau des interdépendances entre les banques. Nous n'avons pas ça dans le cas français et dans le cas européen, parce que ces questions, d'ailleurs, ne peuvent trouver en effet d'aboutissement que dans le cas européen. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Là, on est face à un dilemme. Il reste à peu près deux, trois minutes. Donc, est-ce qu'il y a vraiment des questions qu'on ne peut pas garder pour soi ? Il y en a au moins deux. Donc, on va prendre rapidement les questions et rapidement les réponses. Merci de vous présenter, s'il vous plaît.
Oui, bonjour, Baptiste Didier Laurent. J'enseigne l'économie. Et deux questions très rapides. Monsieur Paulin, vous nous dites qu'il y a la banque utile, et donc j'en déduis qu'il y a la banque inutile. Donc à quoi servent les banques d'affaires ? Et une question à monsieur Canfin et monsieur Weber. Monsieur Canfin a dit que la liquidité de marché n'avait pas, ou cette liquidité à la seconde, n'avait pas d'utilité économique. Et monsieur Weber a haussé les sourcils, donc j'aimerais qu'il nous explique son haussement de sourcils. Voilà. Merci.
Merci. Juste derrière, je crois. Voilà.
Merci. Mesquita Lucas, étudiant en L3, spécialité banque-finance. On médiatise énormément tout ce qui est notion de paradis fiscaux, d'agences de notation, titrisation, Bâle 3, etc. Mais ce qu'on oublie de souligner, c'est que le marché est par nature non autorégulateur, contrairement à la pensée libérale, puisqu'il ne se régule pas par les prix, contrairement à un marché de biens de consommation, lorsque le prix augmente, la demande diminue, alors que là, lorsque le prix augmente, la demande augmente. Il est par ailleurs rationnel à l'extrême, avec des modèles mathématiques que l'ensemble des agents possèdent, notamment le value at risk, et il est interconnecté à l'extrême aussi, puisqu'on voit que la crise est au départ américaine et qu'elle s'est propagée à l'ensemble de l'économie. Donc avant tout, est-ce qu'il ne faut pas réguler le marché par une segmentation de métiers, comme l'a souligné M. Paulin et comme M. Weber n'était pas tout à fait d'accord, entre par exemple le dépôt, l'investissement, l'assurance, le crédit immobilier, etc. Et de façon géographique, pour éviter la contagion, sauf pour les investissements productifs qui permettent le développement. Et enfin, est-ce que la BCE ne doit pas inscrire dans ses statuts la stabilité des prix financiers, comme de l'inflation classique, avec notamment un taux d'intérêt spéculatif ou la politique macroprudentielle par les potentiels de croissance ?
Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions absolument importantes ? Je ne vois pas d'autres mains se lever, donc je vais demander, si, une là-bas, une dernière alors. Si la personne, voilà, si on peut amener le micro.
Donc, monsieur Caldi, je suis professeur de gestion. Donc, j'ai deux petites questions. La première concerne tout le monde. La finance est-elle sous contrôle ? La conférence, elle était axée plutôt sur les banques. Et à mon sens, on a oublié un petit peu le marché financier. Est-ce que c'est voulu ou... Et la deuxième question, il y a une loi qui vient d'être votée le 22 octobre sur la régulation bancaire, ici en France. Est-ce que vous pouvez nous dire les grandes lignes de cette loi ? Merci.
Merci, on a quand même parlé chambre de compensation et fonds spéculatifs. Je vais peut-être donner... Jean-Paul Paulin voulait réagir tout de suite, donc je vais lui donner la parole pour commencer à répondre aux questions auxquelles il souhaite répondre, et puis ensuite conclure, s'il veut donner un petit mot de conclusion, et puis on reprendra chacun des intervenants, mais je leur demanderai vraiment d'être très très bref, surtout ceux qui ont beaucoup parlé au début, même s'ils sont très sollicités par les questions.
Je vais juste répondre à la première question sur les banques d'affaires. Alors, les banques de financement et d'investissement, ça recouvre quand même beaucoup d'activités, hein, et notamment, effectivement, la banque d'affaires. La banque d'affaires, ça n'a rien à voir avec le trading, quoi. La banque d'affaires, c'est une petite structure qui fait du B2B entre entreprises pour des rachats. Voilà. Donc, ça, c'est sans doute un job utile. Bon, il ne faut pas exagérer. Les marchés ont également leur utilité. Ce qu'on conteste, c'est le coût de fonctionnement, enfin, la rentabilité, les rémunérations dans ces structures par rapport à ce qui se fait dans le reste de la banque et plus généralement dans le reste de l'économie. Je rappelle quand même que en 10 ans, l'écart de rémunération entre le secteur financier et le reste de l'économie. Il y a 10 ans, c'était 15%. Au moment de la crise, c'est devenu 45%. Okay, donc, on espère à qualification égale, ce sont des chiffres INSEE. Alors, ce que je dirais sur la banque d'affaires, c'est que la rentabilité de ces opérations, sans doute utile, est parfaitement excessive. Enfin, c'est ce que dit d'ailleurs, c'est l'avis général, par rapport à l'utilité de ces opérations, enfin au coût de ces opérations. Alors, quant à ma conclusion, au fond, je crois avoir tout dit. Donc,
Moi, j'aurais 3000 remarques à faire. Enfin, si je devais vous donner trois messages, c'est un certain nombre des propositions qui ont été évoquées par Laurent Cialom ou par M. Paulin sont discutées en ce moment. Donc, j'aimerais vraiment pas que vous partiez avec l'idée que rien n'est fait. C'est complètement faux. C'est vraiment totalement faux. À bien des égards, je suis assez neuf sur les questions de stabilité financière. Je suis surpris par la profondeur des discussions qui ont lieu entre les régulateurs au plan international. Il y a toute une série de questions qui sont évoquées aujourd'hui, qui ont été discutées très intensément pendant les deux dernières années. Première remarque, donc on fait beaucoup. Sur le calendrier, on va trop lentement. Pour faire Bâle 2, il a fallu 12 ans. Pour faire Bâle 3, il a fallu 2 ans. Première remarque. Et puis par ailleurs, sur la question du calendrier, est-ce qu'il fallait obliger toutes les banques l'an prochain, en janvier, à passer à un régime prudentiel beaucoup plus contraignant, beaucoup plus dur que ce qu'elles ont vécu celui sous lequel elles ont vécu jusqu'à présent. Il faut quand même se rappeler que quand les décisions ont été prises par les régulateurs ou ont été discutées par les régulateurs, on était en 2008, on était en 2009, surtout en 2009, où ce qu'on craignait le plus, c'était effectivement, on ignorait totalement les perspectives de croissance de l'économie mondiale. On est aujourd'hui dans une situation où, objectivement, je pense que personne ne peut le contester, on est de nouveau dans une situation relativement incertaine. Les autorités américaines prennent des mesures de très grande ampleur pour soutenir leur économie. Il y a des discussions en Europe sur de même nature. Est-ce qu'on veut vraiment, alors que vos emplois, alors que la croissance sont une source d'incertitude et d'inquiétude, est-ce qu'on veut vraiment contribuer à rendre les choses un tout petit peu plus compliquées? Quand on est un policymaker, je ne suis pas sûr qu'on ait envie de prendre ce risque-là, et je pense qu'on a raison de ne pas vouloir le prendre et de reporter un certain nombre de réformes à un peu plus tard. Ça ne me paraît pas le cœur du problème aujourd'hui. Ces réformes auront lieu et elles seront fondamentales. Je ne peux pas ne pas réagir à la notion de capture du régulateur. C'est un message qu'il faut entendre, qui est pertinent à bien des égards. Encore une fois, moi, ça fait 2 ans que je suis sur le sujet. Il y a des choses qui sont effectivement frappantes. Je pense qu'il ne faut pas, survaloriser ce genre de considération. Le superviseur joue sa crédibilité aussi quand il décide des règles, quand il les impose. Ça m'amène à un autre point qui est fondamental, que je n'ai pas évoqué, qui n'a été évoqué par personne. La crise américaine, la crise anglaise, qui sont des crises incroyablement violentes, sont la crise d'un système de supervision. Ce ne sont pas la crise d'un système de finances, ce sont la crise d'un système de supervision, la manière dont on supervise les entités. En France, on a une approche qui est fondamentalement différente de celle qui prévalait aux États-Unis, de celle qui prévalait en Angleterre. On n'a pas vécu les mêmes problèmes. Dernier point sur la notion de crise, crise endogène, crise qui est liée à la spéculation, etc. Juste un point. On peut faire l'argument, et c'est documenté empiriquement, que les crises financières les plus violentes... Moi, je suis prêt à acheter plein d'arguments qui ont été évoqués, qui sont la théorie de Minsky, tout ça. Enfin, moi, j'achète complètement. Néanmoins, fondamentalement, les moteurs d'une crise, surtout d'une crise du crédit, parce que c'est une crise du crédit, les moteurs d'une crise sont souvent à chercher dans des détails très précis. Vous allez aux États-Unis, au milieu des années 2000, l'administration Bush décide d'une chose. Il faut que le maximum de ménages américains aient accès à une maison. But politique légitime. Et c'est ce moteur-là qui génère la crise de l'immobilier aux États-Unis, qui provoque la survalorisation de l'immobilier aux États-Unis, qui fait du crédit pour des gens qui n'ont pas les moyens de le payer et qui nourrit la titrisation. Ça, c'est un élément extrêmement important. Je caricature évidemment un petit peu, mais le fait qu'il y ait des moteurs politiques à l'origine d'un certain nombre de crises financières ne doit pas être négligé. Vous faisiez allusion à la crise de l'eau, c'est pareil, c'est une crise politique au fond.
Donc, pour conclure, je voudrais simplement dire que, effectivement, les questions de la finance sont des questions excessivement complexes qui, jusqu'à cette crise, sont restées hors du champ citoyen et du champ politique, et que s'il y a un acquis à cette crise, il est beaucoup trop tôt pour le dire, ça serait effectivement une réappropriation de ces questions qui peuvent être traitées autrement que par la complexité, mais qu'on nous a jusque-là vendues comme telles. Et en ce sens, je souscris parfaitement à ce qu'a dit Pascal Canfin.
Une dernière minute.
J'avais juste deux messages. Le premier, c'est que quand on regarde la rentabilité des activités de marché de la principale banque française qui s'appelle BNP Paribas, je ne sais pas si vous connaissez le chiffre, en 2009, c'était 45%. En 2010, c'est 50%. Quand vous avez une activité économique qui fait 50% de rentabilité, c'est que forcément, elle est prédatrice sur d'autres secteurs. Et je pense que ça, c'est une chose simple. Après, on discute des règles, mais ça veut dire que la situation actuelle, elle n'est pas tenable, elle est juste moralement insupportable. Le deuxième élément, c'est la question de la... Le deuxième élément, c'est la question de la démocratie. Tout ce qu'on a dit là, c'est extrêmement compliqué, mais il y a une chose assez simple à comprendre, c'est que si les investisseurs institutionnels, si les banques, si les compagnies d'assurance ont ce pouvoir auprès du régulateur, par une capture réglementaire, auprès de l'ensemble de l'économie, c'est qu'elles jouent avec une chose, ça s'appelle votre argent. C'est votre argent qu'elles ont dans leur compte et qu'elles vont utiliser et qui leur donne une puissance colossale. Et donc, au-delà de tous les débats de politique publique qu'on peut avoir, qui sont techniques, compliqués, légitimes, posez-vous cette question. Quand je choisis ma banque, qu'est-ce qu'elle fait avec? Et il y a vraiment des différences entre elles. Et vous avez des guides publiés par Alternatives économiques, notamment, pour vous aider à choisir. Réappropriez-vous cette question, pas seulement sous l'angle des politiques publiques, mais sous l'angle du consommateur et de l'épargnant. Merci.
Merci.